Il est 18h30 à Paris, 17h30 en temps universel à mes côtés. Romain Ouzoui, c'est pour le débat du jour sur RFI. Bonne émission.
Merci à vous Véronique et le débat du jour qui nous emmène ce soir en Turquie.
Le débat du jour. Romain Ouzoui.
La Turquie qui se soulève depuis une semaine, chaque soir des milliers de personnes sortent dans la rue pour manifester. Alors à l'origine de cette colère, il y a mercredi dernier l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, puis son incarcération 4 jours plus tard. Alors officiellement, incarcération pour corruption et lien avec des organisations terroristes, mais pour une grande partie de la population, il y a la volonté de faire taire celui qui est pressenti comme le principal opposant au président turc Recep Tayyip Erdogan. Comment faut-il considérer ce qui se passe actuellement en Turquie? Est-ce qu'on peut parler de coup d'État? Voilà la question qu'on pose ce soir. Qu'est-ce que cela dit de l'évolution de la Turquie, de la dérive peut-être de la Turquie aujourd'hui? À quoi la mobilisation actuelle peut-elle aboutir? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités ce soir, à mes côtés en studio, Dorothée Schmitz, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse, responsable du programme Turquie-Moyen-Orient de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et puis vous êtes l'autrice du livre « La Turquie en 100 questions ». Nos deux autres invités sont en ligne avec nous. Marc Pirini, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur auprès du think tank Carnegie Europe, ancien ambassadeur de l'Union européenne en Turquie, et notre troisième invité en ligne également, Ahmet İnsel, bonsoir.
Bonsoir.
Chroniqueur et éditeur, ancien professeur de l'université de Galatasaray, votre ouvrage « Le national capitalisme autoritaire ». Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Dorothée Schmitz, on va entrer directement dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on peut analyser cette décision d'arrêter Ekrem İmamoğlu? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que ça signifie?
Je pense que Erdogan a voulu éviter une consolidation trop rapide de l'opposition. Il a perdu les dernières élections en Turquie, les élections municipales de l'année dernière, et on a vu le parti de maire d'Istanbul, le Parti républicain du peuple, se recomposer assez rapidement. Et là, il était sur le point de désigner son candidat à la prochaine présidentielle, qui doit avoir lieu dans 3 ans. Mais Erdogan essaye de freiner quand même l'érosion de sa popularité, de son électorat. Il a probablement en tête une révision constitutionnelle pour pouvoir se présenter pour un 4e mandat présidentiel.
Parce qu'il en est...
Il est dans son troisième.
Il est dans son troisième, mais il a surtout déjà changé la constitution en 2017 pour déjà se représenter.
Oui.
C'est ce qui se trame, selon vous, en Turquie?
Écoutez, probablement. Enfin, c'est ce qui se trame. Tout dépendra quand même de l'issue de cette contestation qui est en train de prendre de l'ampleur, même si je pense qu'avec mes camarades, on va voir un peu... Comment est-ce qu'on évalue ses chances d'évoluer?
Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque, en arrêtant Ekrem İmamoğlu, d'en faire un martyr aussi?
Oui, bien sûr. Alors, je pense que là, il y a quand même un aspect qui a été un peu sous-estimé par Erdogan, c'est que İmamoğlu est un communicant hors pair et qu'à partir du moment où le parti s'était mis d'accord pour le désigner comme son chef de file, hein, comme sa tête de proue, c'était très, très... très évident qu'on aurait une offensive de communication et une créativité plus grande dans les moyens de contestation. Et là, je trouve qu'il déploie une assez grande maîtrise hein, quand même pour tenir le débat, pour tenir le public en haleine, pour essayer d'inventer des nouveaux moyens de faire durer la contestation et de la faire déboucher. Tout ça dans un cadre légal, sans amener à une confrontation immédiatement violente.
Marc Pirini, pour essayer d'évaluer à quel point est-ce qu'un pas a été franchi avec cette arrestation d'Ekrem İmamoğlu, comment est-ce qu'on peut définir aujourd'hui le pouvoir d'Erdogan en Turquie?
Moi, je le définis comme une autocratie constitutionnelle, c'est-à-dire que j'ai assisté, il y a plus de 10 ans de cela, à la... dégradation progressive de l'état de droit, mais le tournant a été, vous venez de le mentionner, le référendum constitutionnel d'avril 2017 qui a instauré le régime d'un seul homme et l'application qu'Erdogan a mise en œuvre de cette constitution est évidemment un pas de plus. Donc ce que nous avons vu au fur et à mesure des années, c'est qu'il a d'abord mis à l'écart les militaires qui traditionnellement jouer un rôle dans la politique, ça a été fait, puis les juges, puis la société civile, et la société civile d'une façon très spectaculaire en mettant en prison et en faisant condamner à perpétuité aggravée Osman Kavala, qui est la dernière personne dont vous pouviez imaginer qu'il allait faire quelque chose contre l'État. Il n'y a strictement rien dans le dossier judiciaire des deux procès consécutifs, mais c'est pour l'exemple. Vous pouvez dire ce que vous voulez, quelqu'un qui n'a rien fait peut aller en prison pour la perpétuité. Puis les médias, bien sûr, plus récemment le secteur privé, parce que deux responsables de TUSIA, de l'organisation patronale turque, avaient eu le mauvais goût de critiquer la politique économique du président. Et puis maintenant, le rival politique, parce que İmamoğlu, c'est quand même la personne qui a mis à terre deux fois en 2019 et une fois l'année dernière, le candidat d'Erdogan pour la municipalité d'Istanbul, hautement symbolique puisque c'est là qu'Erdogan lui-même a émergé sur la scène politique. Et ce qui, de l'extérieur, me frappe énormément, c'est que les arguments utilisés contre İmamoğlu par le président lui-même, par l'appareil judiciaire, ce sont exactement les mêmes que ceux qu'Erdogan a dû combattre tout au long de sa carrière politique. Ton diplôme est faux, les appels d'offres sont truqués, le comptage des voix est irrégulier et il y a de la corruption partout. Ouais. C'est exactement ce que l'opposition et les anciens amis politiques d'Erdogan lui ont fait subir pendant deux décennies.
Ouais. C'est le retour de bâton. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'en Turquie, en gros, là, le diplôme d'İmamoğlu a été annulé. Et en Turquie, il faut au moins 4 années d'études supérieures pour candidater aux fonctions de chef de l'État. Donc ça, évidemment, c'est une manière de l'écarter.
Mais pour le moment, on voit que la contestation populaire dépasse de loin le jeu des partis politiques.
Ouais.
Et donc, vous avez face à face un échelon politique qui est en panique aujourd'hui et une population désespérée, en particulier les jeunes.
Quand je dis « est-ce qu'un pas a été franchi ?» C'est la première fois que le pouvoir turc s'en prend directement à un opposant comme ça en l'emprisonnant.
Il y a eu beaucoup de tentatives diverses et variées, mais c'est la première fois qu'une personnalité de l'opposition, depuis plusieurs mois maintenant, bat le président virtuellement dans les sondages d'opinion. Donc c'est ça la différence. Quand İmamoğlu sort à 55% dans une élection virtuelle d'un sondage politique, ça fait très peur au président en place.
Et on rappelle que malgré sa détention, parce qu'il est en prison depuis dimanche, Ekrem İmamoğlu, et dimanche, il a été élu candidat officiel de ce parti, le Parti Républicain du Peuple, donc dont il est le leader, il est le maire d'Istanbul. Il a été élu par, on attendait des dizaines, des centaines de milliers de personnes, il y a eu des millions d'électeurs qui ont voté pour lui. Ahmet Ünsal, on ne vous a pas encore entendu, à quel point est-ce que ça représente une dérive? Un pas a été franchi. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce concept d'autocratie constitutionnelle qui est devenue la Turquie, selon Marc Pierini?
Oui, c'est une autocratie constitutionnelle et j'ai l'impression et j'ai bien peur qu'avec le pas qui est franchi la semaine dernière, vous avez utilisé le terme de « est-ce que c'est un coup d'État ?» Il est un coup. Sûrement, ce n'est pas un coup d'État pour renverser le gouvernement, mais c'est un coup d'État à l'envers. C'est un coup contre le dernier bribe de démocratie qui restait dans cette autocratie constitutionnelle, comme le propose Marc Pierini. C'est la suppression possible, potentielle, d'une participation aux élections compétitives. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas en Turquie, sauf dans les périodes de coup d'État militaire. La Turquie n'est pas une démocratie au sens classique du terme, mais au moins, il y avait une chose, c'est que les élections étaient relativement compétitives, les candidats pouvaient se présenter et éventuellement, comme dans le cas de l'élection municipale, pouvaient combattre les candidats de pouvoir. Là, avec ce pas du gouvernement la semaine dernière, nous avons aussi franchi la possibilité d'une dictature. C'est un coup contre la Constitution en même temps. Je pense que le terme autocratie sera simplement suffisant et peut-être même nous aurons dans, je ne sais pas, c'est très difficile de prévoir les choses parce que nous sommes dans une incertitude absolue. Est-ce que la contestation va arriver à vaincre l'entêtement de Tayyip Erdogan ou est-ce que Tayyip Erdogan va s'engouffrer de plus en plus dans une dynamique répressive qui sera accompagnée d'une dynamique de déconstitutionnalisation, de déjuridiction, etc. Donc, nous sommes dans possible d'une Turquie qui sera dans quelques années, dans quelques mois, dans un régime totalement différent.
Dorothée Schmidt, on peut poser la question, puisque c'est la question de notre débat, et Ahmet İnsel y a répondu. C'est un coup d'État ?
C'est pas encore vraiment un coup d'État. Je dirais que d'une certaine façon, Erdogan, au contraire, en ce moment, se repose sur l'État plus que jamais, puisque... alors d'abord, il a un peu changé sa propre définition de la démocratie, puisqu'auparavant, l'essentiel de sa définition démocratique, c'était précisément les élections. C'était d'expliquer qu'il tirait toute sa légitimité des élections, qui étaient, comme l'a dit Ahmet İnsel, relativement compétitive.
Qui était transparente.
Et
effectivement, c'est en ça que ça change, cette arrestation. C'est que jusque-là, l'opposition a toujours pu librement désigner son
candidat. Oui, alors il y a
candidat.
Quand même İmamoğlu, c'est le symbole du glissement quand même vers des élections un petit peu plus trafiquées, puisque en 2019, on a dû rejouer son élection parce que le Conseil électoral avait estimé que l'écart de voix n'était pas suffisant avec le candidat de l'AKP. Et donc, on a refait les élections. Donc, on est déjà là sur cette espèce de difficulté de manipulation, d'éventualité d'une manipulation des scrutins. Mais donc, je suis très frappée de voir que maintenant, Erdogan ne parle plus des élections, mais pour lui, la démocratie, est incarnée par la justice, l'exigence de justice. Et il affirme que le procès d'İmamoğlu, c'est précisément la sauvegarde de ses valeurs fondamentales.
Et justice qui est aux mains d'Erdogan.
Alors, le problème, c'est qu'effectivement, on a un gros sujet, on a un gros débat sur l'indépendance de la justice en Turquie. Et on estime que le procureur général d'Istanbul, qui a vraiment un CV où il a effectivement poursuivi beaucoup d'opposants, incarne en fait ce biais de la justice. Et puis aujourd'hui, Erdogan défend aussi les forces de l'ordre. Donc ces deux piliers maintenant de gouvernement, c'est l'ordre et puis la justice. Alors je ne sais pas comment ça peut sonner dans d'autres, sous d'autres cieux, mais le problème aussi quand on parle de coup d'État en Turquie, c'est qu'en fait, dans ce contexte turc, quand on en parle, on pense tout de suite à des coups d'État militaires.
Parce que c'est 2016, il y a eu un coup d'État.
La dernière tentative, mais c'est un pays qui a une histoire de coups d'État militaires très régulière depuis la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, l'armée, elle est du côté d'Erdogan.
En tout cas, sur l'évolution de la Turquie, il y a beaucoup de parallèles avec la Russie. Est-ce que vous partagez ces parallèles-là? Je vais citer le journaliste turc sur X qui dit « On s'est endormi en Turquie, on s'est réveillé en Russie ».
Effectivement, on a l'impression que la façon dont Erdogan aujourd'hui veut concentrer absolument tous les pouvoirs sur sa personne et dont il manipule les textes, et Ahmet disait qu'il a quand même aujourd'hui une volonté d'aller contre la Constitution, elle nous donne le sentiment, oui, d'une politisation du régime, puisque c'est le régime d'un seul homme qui essaie de faire une ingénierie des masses aussi en Turquie. Alors il a accepté pendant longtemps d'avoir des partis politiques avec lesquels il était en compétition pour des élections en sachant qu'ils étaient toujours plus mauvais que son propre parti. Et maintenant qu'il commence à s'organiser et que c'est son propre parti qui voit sa base s'éroder, ça n'est plus tolérable. Mais la différence avec la Russie, c'est quand même la Turquie reste une arène idéologique très compétitive en réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des gens qui pensent des choses très différentes. Et aujourd'hui, le grand point de comparaison qu'on a, c'est les énormes manifestations de Gezi en 2013.
Mais même ce qui se passe actuellement, il n'y aurait pas ça en Russie.
Oui, je pense qu'il n'y aurait pas ça en Russie, effectivement. Ouais. Bon, maintenant, il faut qu'on arrive à mesurer quand même l'ampleur de cette mobilisation. Et ce que je trouve très intéressant, c'est la primaire du CHP, donc du parti du maire d'Istanbul, qui a été organisée dimanche. Et ils ont décidé très astucieusement d'en faire une primaire ouverte, de permettre à tout le monde de voter. Ils ont eu 15 millions de votants, ce qui est quand même absolument énorme.
Et c'est ce qui en dit long sur la popularité d'Ekrem İmamoğlu et la menace qui pèse sur Erdogan.
Oui, ou sur le refus, en tout cas, d'une grande partie de la population de cette manipulation qu'Erdogan est en train d'essayer de faire passer.
Marc Pierini, quand je posais la première question à Dorothée Schmidt, pourquoi maintenant, il y a ce contexte du régime incarné par Erdogan qui se rapproche du PKK. Les deux parties, donc l'AKP et le PKK, les Kurdes, une partie des Kurdes du Kurdistan, qui vont vers un accord actuellement. Pourquoi, dans ce contexte-là, qu'on pourrait juger d'apaisement, y a-t-il cette interpellation d'Ekrem Imamoglu?
Tout simplement parce qu'il y avait plus important ailleurs. Dans le contexte de l'invasion russe de l'Ukraine et de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, vous avez maintenant ce phénomène qu'on appelle en français la coalition des volontaires, ou coalition of the willing en anglais, pilotée par le Premier ministre britannique et le président Macron, et bientôt le futur chancelier allemand. C'est considéré comme une nécessité vu les positions nouvelles et très inamicales envers les Européens de Donald Trump. Donc la Turquie voit cela, ou en tout cas le président turc voit cela comme une occasion de revenir sur le devant de la scène. Et après sa réélection de mai 2023, il avait professé de très grandes ambitions sur la scène internationale. Il a voulu être le médiateur entre l'Ukraine et la Russie. Ça n'a pas marché. Ensuite, il a voulu jouer un rôle au Proche-Orient, mais vu ses positions sur le Hamas, évidemment, il a disparu de la scène. Et on voit bien que tout ce qui se passe autour d'Israël et des Palestiniens, c'est fait par l'Arabie Saoudite, le Qatar et l'Égypte. Donc, il y avait une sorte de mise à l'écart, en quelque sorte. Et cette affaire de la coalition des volontaires, qui est à la fois pour renforcer les apports en armes à l'Ukraine, mais aussi pour renforcer l'architecture de défense de l'Europe de l'Ouest, c'est une occasion en or pour Erdogan, parce que la Turquie, comme on le sait, a une industrie de défense très dynamique, très diversifiée. Ça va de l'artillerie et des munitions pour l'artillerie, aux drones, bien entendu, aux constructions navales, aux véhicules blindés, etc., etc. Et surtout, elle a une industrie qui est jeune, qui est innovante et qui est flexible dans sa mise en marche. Donc, alors que les industries françaises, allemandes, britanniques et italiennes, etc., sont beaucoup plus lentes, et on le voit tous les jours dans les reportages, pour arriver à monter en gamme. Donc, Erdogan se dit, voilà, j'ai un rôle à jouer. Son ministre des Affaires étrangères a participé à toutes les réunions, son chef d'état-major également, à Londres, à Paris. Il y en a une nouvelle demain à Paris. Et évidemment qu'il compte en retour sur le silence de ses interlocuteurs de l'Europe de l'Ouest sur l'état de droit.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce pour les raisons que vous évoquez que la communauté internationale, depuis le début de la contestation en Turquie, est étonnamment discrète? Il y a eu aujourd'hui des préoccupations évoquées par Washington, par Paris ce mercredi.
Oui, et dimanche par l'Allemagne et la France, etc. Mais c'est effectivement très discret. C'est discret et ça reflète bien entendu l'embarras des chancelleries européennes parce que la Turquie a quelque chose de tout à fait concret à apporter. En même temps, si je puis dire, inclure de façon très substantielle la Turquie dans les fournitures d'armement pour l'Europe et pour l'Ukraine, ça présente des dangers parce que, naturellement, si cela se passe, ce qui n'est pas garanti évidemment, la Russie sera tentée de réagir. Et la Russie a X leviers sur la Turquie pour la gêner ou pour la faire reculer. Elle fournit 50% du gaz, elle construit et gère elle-même et possède une centrale électrique nucléaire. 8 millions de touristes russes chaque année, des exportations agricoles turques vers la Russie, des contrats de construction. Et ça, ce ne sont pas des hypothèses de chercheurs que je vous fais là. Ce sont des choses qui se sont passées dans des contextes complètement différents, il est vrai. Mais il est arrivé que Poutine dise « Ah, plus aucun touriste russe en Turquie ». Et ça dure des mois. Plus d'importations de tomates. Tout ceci s'est déjà passé. Donc, comment faire pour arriver à utiliser la contribution turque à un renforcement de la défense européenne sans se mettre sous la pression indirecte de la Russie sur la Turquie.
Et comment aussi pour la communauté internationale, à la fois évidemment soutenir l'état de droit, la démocratie, dénoncer la dérive autoritaire et en même temps bien prendre soin de cet interlocuteur Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie, qui, dans le dossier ukrainien, parle tout autant au président russe qu'à son homologue Volodymyr Zelensky.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Peut-on parler de coup d'État en Turquie ? Oui, vous nous dites, Ahmet İnsel, chroniqueur et éditeur, ancien professeur de l'université de Galatasaray. Marc Pirini, invité également de ce débat du jour, chercheur auprès du think tank Carnegie Europe, ancien ambassadeur de l'Union européenne en Turquie. Et Dorothée Schmidt, chercheuse, responsable du programme Turquie-Moyen-Orient de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, alors que depuis une semaine maintenant, la Turquie se mobilise, une grande partie de la population descend chaque soir dans la rue. Il y a des rassemblements à l'appel du parti d'Ekrem İmamoğlu, donc le maire d'Istanbul, qui a été arrêté il y a une semaine, qui a été incarcéré quelques jours plus tard. Et alors, on n'a pas les images de ce qui se passe actuellement en Turquie, mais à 17h30, temps universel, donc c'est-à-dire il y a 20 minutes, la population d'Istanbul était appelée ce soir, c'est un changement de méthode, à applaudir, à klaxonner, à agiter les drapeaux aux fenêtres, alors que depuis une semaine, le rendez-vous, c'était devant la mairie d'Istanbul. Dorothée Schmidt, vous avez fait référence au mouvement Gezi 2013 dans la foulée des printemps arabes, mouvement qui a été globalement réprimé. Qu'est-ce qui vous inspire le mouvement actuel ?
Évidemment, c'est notre premier point de comparaison, Gezi, parce que ce sont des manifestations massives qui ont touché 79 des 80 provinces de la Turquie. C'était des manifestations spontanées. Elles se sont très vite concentrées sur la personne de Tayyip Erdogan. Je pense que là, on a au moins deux différences. C'est que d'abord, on a des partis politiques qui s'engagent aujourd'hui et qui essaient de structurer cette contestation. Alors effectivement, le parti d'İmamoğlu qui est en train, comme je disais au début de ce débat, de se réorganiser, de montrer une certaine maturité politique, une capacité à stratégiser quand même le débat. Et puis,
mais c'est une mobilisation politique, vous diriez, actuellement, c'est citoyen.
Et qui a réussi à élargir cette base en disant qu'effectivement, ça ne se réduisait pas à un débat politique. Et ça, c'est la deuxième différence qui me semble très importante, c'est que le débat porte aujourd'hui sur vraiment la défense de la démocratie très largement. Et c'est pour ça que j'insiste aussi sur cette question des élections, parce que je trouve très astucieux de la part du GEP, à la fois d'organiser une primaire où on a une participation massive, et de demander maintenant des élections anticipées et d'insister beaucoup là-dessus. C'est-à-dire de pousser finalement Erdogan dans ses retranchements sur une question sur laquelle jusqu'à présent il se considérait comme irréprochable, qui était le fait de gagner systématiquement les élections en Turquie. Et on sent que le président de la République est quand même sur la défensive aujourd'hui. Il semble qu'il n'ait pas complètement prévu cette espèce de résistance un peu élastique à laquelle il fait face. Pour éviter que la contestation ne s'épuise, là, je vous rappelle qu'en plus, on est pendant le ramadan, on est en fin de ramadan en ce moment. Donc, le GAP a appelé une grande manifestation samedi. Ouais. On sera juste à la veille de la fin du ramadan. La question sera, est-ce que pendant les quelques jours de vacances qui vont suivre, on pourra arriver à maintenir un niveau de tension dans le pays ? Mais de toute façon, Erdogan n'a l'air prêt à rien céder à l'opposition. Donc la phase d'après, c'est probablement la confrontation.
Et lui dénonce, c'est son credo, je cite, la terreur de la rue.
La terreur de la rue, le fait d'empêcher de faire obstruction à la justice. Enfin, il se place à la fois du côté de l'ordre et de la légalité, ce qui est assez paradoxal.
Marc Pirini, vous êtes étonné que la mobilisation dure ?
Non, pas du tout, parce que je pense que ce qu'elle montre, au-delà de l'incarcération d'İmamoğlu, qui avait commencé très clairement à faire rêver beaucoup de gens, c'est tout simplement que la mécanique politique d'Erdogan s'est essoufflée. Et on va voir maintenant, bien entendu, le contre-coup économique de tout cela, puisque la Turquie est un pays qui compte sur l'investissement étranger. À force de répression depuis des années, et là en particulier, ça va décourager beaucoup d'investisseurs. Mais pour revenir à l'argument en quoi ça nous concerne, la coalition des volontaires qui se réunit encore une fois demain à Paris, c'est à la fin des fins, c'est quoi ? C'est la force brute d'un côté, qui est la Russie qui a envahi l'Ukraine.
La question, c'était surtout sur là on est passé à l'évolution de la mobilisation actuelle de la Turquie.
Ben, là, moi, je pense que la mobilisation va continuer.
Ouais.
Il y a bien sûr le risque que la fête de fin de Ramadan atténue un peu tout cela, mais je pense que au-delà des partis politiques et des consignes données par le parti d'Imamoglu, la population a exprimé un véritable ras-le-bol et qu'elle va donc continuer à se manifester.
Ahmet Insel, vous craignez la répression, Dorothée Schmidt, vous y avez fait référence.
La répression, oui, je pense que Tayyip Erdogan est un peu prisonnier de son jeu et il ne peut qu'augmenter le degré de la répression et élargir le champ de la répression. Moi, je ne suis pas sûr que la manifestation aussi massive puisse continuer. Il va jouer sur deux choses. D'abord, la lassitude, l'attente, et puis deuxièmement, la répression, parce que aujourd'hui, après les manifestations, le lendemain, des dizaines, de centaines de personnes sont systématiquement arrêtées chez eux, et ils menacent par ailleurs, ils menacent de brouiller, d'empêcher le Parti républicain du peuple, le CHP, fonctionner. Il y a une menace pour l'annulation de son congrès général extraordinaire. Aujourd'hui, le juge l'a refusé, mais il peut y avoir d'autres tentatives. Et même le terme est utilisé par les tenants du pouvoir, pas par Erdogan, mais des trolls du parti au pouvoir, de nommer un administrateur à la place de président actuel du CHP, un administrateur pour gérer le CHP. Donc, du coup, je pense qu'il est conscient que incarcérer Imamoglu ne lui suffit pas. Il faut qu'il aille plus loin, empêcher les candidats de substitution à Imamoglu que Imamoglu pourrait désigner depuis son prison comme son candidat. Ça peut être le maire d'Ankara, ça peut être le président actuel du CHP. Et donc, nous rentrons dans une poutinisation, dans ce cas-là, vraiment, du régime. Évidemment, avec une société active, une société dynamique, mais qui peut aussi avoir, à long terme, un peu d'essoufflement et peut-être jouer la carte d'attente pour voir le régime s'écrouler.
Dorothée Schmidt, ce sera le mot de la fin, il nous reste une minute. Erdogan qui désigne son opposant, est-ce que vous y croyez? Et puis, qu'est-ce qui pourrait faire tomber Recep Tayyip Erdogan, selon vous?
Je crois que le problème, c'est qu'Erdogan sait maintenant qu'il est minoritaire dans le pays. Et pendant très longtemps, ça n'a pas été le cas. Et c'est peut-être ça la différence avec Poutine aussi. Malgré tout, Vladimir Poutine a joué d'une énorme popularité. Et là, ce qui se passe aujourd'hui risque pas tellement d'améliorer la popularité de Recep Tayyip Erdogan. C'est pour ça qu'on est pratiquement dans un entonnoir qui mène forcément à plus de répression ou plus de confrontation. Je crois que, par ailleurs, le GEP comptait peut-être quand même un peu davantage sur du soutien international, mais maintenant, la Turquie, c'est une arène fermée. Et c'est ce sur quoi Erdogan compte aussi, c'est pouvoir asseoir son pouvoir sans que personne lui dise ce qu'il a à faire dans son propre pays. Mais c'est un leader vieillissant. Il ne faut pas oublier que lors de la dernière campagne pour les présidentielles, il a dit qu'il se retirait de la vie politique. C'était sa dernière campagne. Donc, on est aussi amené sur la question de la succession d'Erdogan. Donc, on n'est pas. C'est un régime qui est pourrissant, malgré tout.
Et la mobilisation continue et le bras de fer également. Déjà, plus de 1400 personnes interpellées en une semaine, 172 personnes placées en détention à Istanbul. Merci beaucoup à vous trois, Dorothée Schmidt, Marc Pirini et Ahmet Insel. Et merci à Florence Pons qui était à la préparation de ce débat et Claude Battista à sa réalisation.
RFI.
Dans une minute, ce sera le grand journal du soir. Il est bientôt 19h ici à Paris et ça veut dire que 30 minutes plus tard, Sylvie Berruet est déjà à mes côtés, ce sera la première édition d'Afrique Soir. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Allez, coup d'œil au programme.
Le Niger, le chef de la junte militaire, le général Tchiani, proclamé président de la République pour au moins 5 ans. C'est lui qui avait renversé le président élu Mohamed Bazoum, c'était lors d'un coup d'État en juillet 2023. Au Soudan, le chef de l'armée, le général Al-Bourhan, annonce depuis le palais présidentiel la libération de Khartoum. Un peu plus tôt, l'armée avait affirmé qu'elle avait repris le contrôle de l'aéroport, un site stratégique qui est occupé depuis le début de la guerre par les FSR, les forces de soutien rapide. Comment lutter contre la malnutrition en Afrique dans un contexte mondial marqué par la baisse des financements? Ce sera le dossier d'Afrique. Saxoire. Et puis au Malawi, le Fonds international pour la protection des animaux poursuivi en justice. En cause, vous l'entendrez, des éléphants déplacés dans le pays auraient tué au moins une dizaine de personnes près d'un parc national.
Eh bien, à tout à l'heure, Sylvie.